On accueille Najim maintenant au 39-21. Bonsoir Najim.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous ?
J'espère que la radio n'est pas trop forte.
Non, non, écoutez, ça va très bien pour moi.
Écoutez, je suis très très heureux de vous avoir au téléphone. Je remercie Florian, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui.
Qui est adorable, toute votre équipe, vos collègues aussi. Et vous m'apportez quelque chose qui s'était éteint. Et vous m'aidez à continuer de me battre contre la maladie, de me sentir moins seul. Je vous ai entendu hier soir, je vous ai trouvé adorable avec cette dame âgée qui a l'air de beaucoup vous apprécier, qui a enregistré vos films et tout ça. Ça me fait beaucoup de bien. Et mon Dieu, comme c'est important d'avoir des gens comme vous, Olivier, comme votre collègue Sabine, si vous saviez le bien que vous me faites à moi, égoïstement, et à certainement énormément de monde. C'est tellement bon. Écoutez, tellement bon.
Mille merci, ça me touche énormément, ce que vous dites. Et j'espère que plus j'en ferai, mieux ça sera, bien évidemment.
Oui, parce que je vis dans une entière solitude. Je vis dans une entière solitude depuis maintenant 30 ans.
Pourquoi, Najim ? Pourquoi ? Elle est due à quoi, cette solitude ?
J'ai honte de parler. J'avais l'habitude de faire un peu de choses comme ça, mais j'ai un peu peur de pas de choquer, mais de manquer de respect. Je voudrais être bien comme il faut. Comment je pourrais vous dire ? Il y avait longtemps que je n'avais pas connecté sur des radios comme ça, studieuses. On sent que vous avez beaucoup d'amour dans votre tessiture de voix. Lorsque je vous ai entendu hier soir, l'écoute, la rigueur, vous n'interrompez pas. C'est tout le temps beau, vous aider, vous, Sabine, et je me sens moins seul. Et je me dis, mon Dieu, les gens ne se rendent pas compte qu'on va tout droit vers quelque chose d'extraordinairement beau. Contrairement à ce que peuvent croire d'autres gens. Parce que je vais vous expliquer, Olivier, je vais pas vous couper la parole, j'ai horreur de ça. Vous nous faites beaucoup de bien. Et c'est une dévotion. C'est comme être atteint d'une grave maladie comme moi. Et à l'époque, il y a 20 ans, avoir le sida, c'était une condamnation à mort. Donc maintenant, il y a le coronavirus. Et je vais essayer de ne pas m'éparpiller. En 1900, je ne sais pas si je peux me permettre de continuer, Olivier.
Si, allez-y, je vous en prie.
J'étais un enfant battu, oui. Avec un père dictateur. J'atterrissais tous les soirs à l'hôpital à Vicennes, en sang.
Oui.
Avec des traumatismes crâniens, un œil éborgné. Une fois, elle a voulu m'étrangler avec la corde du mouton de la fête de l'Aïd pour un carré de chocolat. Je comprenais pas. Il y a 40 ans, on n'avait pas le droit de parler. Pour moi, c'était normal. Ouais. Je pouvais pas aller à l'école voir l'assistante sociale. J'avais honte.
Ouais. Vous étiez donc avec un père ultra violent envers vous.
C'était une abomination que je l'adore. Je fais des prières en ce moment tous les vendredis soirs. Je lui demande pardon. Je lui pardonne pour qu'il parte vite là-haut, qu'il soit bien, parce que je le rêve beaucoup. Et alors c'est extraordinaire. C'est pas négatif.
Il n'est pas décédé, votre papa ?
Il est décédé d'une. Il a contracté d'après le docteur Berthelin. Finalement, à la fin. Malheureusement, je ne l'ai pas souhaité parce que je suis plein d'amour. Et j'ai aimé mon dictateur. C'est peut-être un Stockholm, je ne sais pas. J'écris un livre en ce moment. Il a construit un cancer du sein gauche. Et le médecin m'a dit, vous savez, c'est vous. C'est ce qu'il vous a fait. Et j'ai dit, non seulement je dois faire le deuil de ce qu'il m'a fait subir, et maintenant de prendre sa mort, trouver un deuil pour cette mort-là. Et,
oui, prenez Najim, prenez du recul par rapport à ce qui est arrivé avec votre père, parce que je pense que ce qu'a entendu votre médecin en vous disant ça, c'est que tout ce qu'il avait fait au-delà de ce qu'il vous avait fait à vous, peut-être payait-il quelque part. Vous savez, quand on a beaucoup de colère, on dit que la colère finit par provoquer des choses à l'intérieur de notre corps qui finissent par nous empoisonner. Hein, la colère empoisonne.
J'ai osé dire ça à un très grand psychiatre, Henri Mandor. Il était très en colère. Je sortais d'une télé. Alors c'est très étrange, Olivier, parce que vous me rappelez votre voix, votre tessiture de voix me rappelle exactement la voix de M. Albert M. Salem, qui était directeur des programmes sur Antenne 2, je crois, à l'époque, qui m'avait découvert dans un endroit où on chante. Je chantais aussi. C'est la soirée des artistes.
Oui, avec Tiffany, ça fait deux chanteurs.
Non, maintenant, c'est fini. Je crois que c'est fini pour moi, quoique. Et M. Albert M. Salem, je sors de chez mon papa en sang. J'étais rentré de l'école Eugène de la Croix. À la maison, j'ai 14 frères et sœurs. J'étais peut-être le plus marginal, un petit peu maniéré comme ça, toujours chic. Je fréquentais les grands quartiers. Déjà à 17 ans, j'allais à l'avenue La Bourdonnais et tout ça. Je rêvais d'avoir mon appartement devant le Champ de Mars et tout. C'était impossible. Ça s'est fait par la suite. Et mon père me met en sang. Il me met en déportation. J'avais l'impression d'être. Il neigeait ce soir-là. Je n'avais pas mangé depuis 3 jours. C'était une abomination. C'était le chaos. Il m'a fait dormir dans la neige, les pieds plantés dans la neige, et je m'en vais. À minuit, je prends le RER. Tout ça, ça va être beau à la fin. C'est pas du négatif. Je vais vous raconter pourquoi très vite. Je m'en vais. Je prends le RER à Drancy et je vais rue Montmartre.
Oui.
Je vais rue Montmartre. Parce que j'avais un ami animateur qui travaillait à Fréquence Gay à l'époque, adorable, extraordinaire. Mmh. Toute une équipe rue Seden là-bas dans le 11e, des gens fabuleux. C'était une autre époque. Mmh. On sortait dans le Marais, il y avait le Bronx, il y avait le Palace, il y avait Amandali, Régine. C'était l'époque disco.
Magnifique.
C'était extraordinaire.
La fête.
C'était extraordinaire, c'était extraordinaire. Quand j'arrivais boulevard Poissonnière en taxi, je me débrouillais toujours pour avoir un peu de thunes sur moi, j'étais quand même pas mal, hein, donc je m'arrangeais, il fallait, on avait la cote et tout, c'était comme ça. Hein.
C'était bon, bien,
je ne me prostituais pas, mais j'avais beaucoup d'amis qui m'aimaient, je les aimais, je les gâtais, et on m'accompagnait, on me dit « Nadjim, tu as ta maquette là ?»« Ah oui, mais c'est quoi ?» Je dis « Mon père, il vient de me frapper, tu vois pas que je suis ensemble ?»« Ah oui, qu'est-ce qu'il a ton œil ?» Je dis « J'ai une cassette de Selawat en arabe. » C'était le tube, c'est la Watt de Caroline Loeb.
Oui, oui, je me souviens.
Et alors, Caroline Loeb avait sorti son maxi 45 tours, et à ma stupéfaction, sur le côté B, il y avait l'instrumental. Donc c'était très facile de faire une maquette, on mettait l'instrumental, on mettait un DAT, et hop, je dis, dépêche-toi, ça à la Radio Sud, fais-moi cette maquette, je la sens très bien, je vais trouver un sponsoring avec la Maison du Café, et je vais faire c'est la Watt en arabe.
Ouais.
Il me dit, mais pourquoi ? Je dis, écoute, alors il me fait prendre l'accent en arabe pour le dire c'est le kawa, c'est-à-dire c'est le kawa, je dis c'est le kawa, les gens pensaient que je chantais pour le Koweït, il y a eu un gros scandale. Le lendemain dans la boîte presse, un article sort, le fils de Saddam Hussein chante, non pas du tout, je ne suis pas le fils de Saddam Hussein, je chante c'est la Watt. Et c'est extraordinaire, le monsieur qui m'a lancé a votre voix.
Ah d'accord, très bien.
Il a une voix soporisante comme
monsieur,
vous.
Monsieur Anselm donc.
Oui, j'étais dans une boîte de nuit très bien, boulevard Poissonnière, et à 3h du matin, il y avait un spectacle où énormément de gens se produisaient. Et moi, alors j'avais pris le RER, il fallait voir comment cabosser et tout ça, mais c'est marrant, quand mon père me frappait, j'avais du charme. Quand je m'étais lavé le sang, j'avais fait mon brushing et tout, j'avais de l'allure. Les gens me disaient, mais qu'est-ce que t'as fait ? Je disais, non, mais je vais être tabassé par mon père.
Mais vous aviez 17 ans là, c'est ça ?
J'avais 18 ans.
18 ans.
Je ne mangeais pas parce que j'étais anorexique mentale. Mmh. Et alors, ce qui est terrible, pour ça que je vais donner du courage aux gens, je vais vraiment donner du courage aux gens ce soir. J'ai osé dire ça à Dr. Rosenbaum, à Henri Mondor. Il m'a disputé. Il avait raison. Je lui ai dit, j'ai vécu une déportation. J'ai vécu une Shoah. J'étais en déportation toute ma vie. Je suis arrivé à 18 ans, j'ai contracté le virus du sida. Mmh. En 2002, j'ai fait une toxoplasmose cérébrale. Je déclenche le sida, il me reste une semaine à vivre. C'est le professeur Olivier Lortolari qui me sauve à Avicenne, à l'hôpital Avicenne. Extraordinaire médecin, délicieux. Alors, ce qui était drôle, c'est que juste avant, j'atterris rue Pierre Charron. Je tombe sur une dame qui s'appelle Arlette Tabar. Elle me dit, c'est vous qui avez chanté dans la boîte de nuit hier soir? Je dis, mais vous êtes au courant de tout? Elle me dit, oui, notre directeur était dans la boîte de nuit, il vous a remarqué. Et moi, j'y suis allé vraiment, je ne sais pas pourquoi, je voulais y aller. Je voulais y aller, je n'avais pas d'argent. J'avais 1,50 € et je m'étais acheté un pudding au chocolat. C'est le gâteau le moins cher, rue Montmartre.
Oui.
Je n'avais rien mangé avec un bol de café au lait. Et je savais que ce soir-là, il se passerait quelque chose parce qu'il y avait le chanteur de One One, le mec qui chantait « Rah, to the beat, rah ». Il m'a dit « il y a un producteur qui sera là ce soir, viens ». Ah bon, ben je viens, et là je vois ce monsieur Albert M. Salem qui vient vers moi, et il me dit « Najim, je t'ai vu chanter, tu as fait un sketch au début, voilà c'est ça, je vais t'envoyer voir Thierry Martin, le producteur de Smaïn, on va faire Selawat ». Il me fait signer chez Bird.
Oui.
Je passe devant Yves Rose, le producteur qui a fait Stéphanie de Monaco comme un ouragan et tout.
Ouais.
Et alors, c'est pas pour faire la star, vous allez comprendre tout de suite. Arlette Tabat me programme. Alors, c'est très drôle, je vais rue Pierre Charon sur les Champs-Élysées. J'avais très peur de voir toutes ces grandes avenues avec ces grandes pierres de Vaugirard, ces grands immeubles, Charles de Gaulle étoile. J'avais peur. Vous savez, quand on est jeune, on a peur quand on
bien
arrive
sûr,
là-dedans.
Bien sûr.
Et j'arrive dans le studio, je vois Arlette Tabar, la réalisatrice, Albert M. Salem, de France 2. Il me dit, Nadine, tu passes en exclusivité dans 2 jours à la télé.
Super.
Ah bon, j'ai dit, c'est pas possible.
Et Nadine,
oui,
même si on se reparle demain, hein, il nous reste 5 minutes 30. Donc je vous le dis, parce
oui.
que. Et si on est interrompu avant, on continuera
voilà.
ça demain. D'accord ?
Oui, demain. Bah, tout ça pour vous dire, je ne vous embête pas, que je suis le contrat, et puis le lendemain, j'apprends que j'ai le sida.
Oh, d'accord.
Voilà, le lendemain, je vais à la Salpêtrière, j'avais un ganglion gros comme ça dans mon cou.
Ouais.
Et le docteur Gantellini me dit, c'est pas le moment d'aller chanter. Je dis, mais je vais avoir des télés, des radios, des contrats, je vais devenir une star. Non, monsieur Lala, vous avez certainement un sida prononcé, il vous reste 3 CD4, CD8. Vous n'avez plus de défense immunitaire et vous avez une toxoplasmose au cerveau.
Bon, et donc les choses sérieuses là, enfin en tout cas les choses importantes pour vous étaient plus du côté de l'hôpital, je suppose.
Voilà, donc tout a été transvasé à l'hôpital et a commencé un grand combat. Je commençais à préparer mon deuil pour partir, j'étais persuadé que j'allais partir. Et je suis encore là,
oui.
Et c'est ce que je voudrais dire à tous ces gens qui ont peur actuellement. Il va y avoir de belles choses, on en parlera demain soir.
Carrément,
si vous voulez.
Avec grand plaisir.
J'ai quitté ma maison de disques de l'après-midi, Isabelle Perrier... Il y avait Manu Dibango à la chapelle qui m'avait pris dans ses bras, qui m'avait dit tiens le coup. Je dis mais tu vois pas comme je suis maigre, parce que j'étais pas traité, j'avais pas de thérapie à l'époque. Il m'a dit mais tu as bon, tu vas réussir.
À l'époque, il n'y en avait pas,
accent,
c'est tout, hein, on a dit, je crois. Hein. Au moment où on vous déclare le sida, il n'y a pas de trithérapie encore.
Il n'y avait pas de trithérapie, et je suis resté 20 ans sans trithérapie, et je suis resté 20 ans à faire des génotypages, j'ai attrapé une neuropathie de tous les membres supérieurs, donc je ne marche plus, je me sers, j'ai deux dames qui viennent, parce que j'ai des décharges électriques, c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression d'être à Auschwitz, avec toute l'indignation que j'ai pour la Shoah, ce chaos. Et un jour, j'ai écouté une radio où il y avait Marceline Loridan, vous connaissez, une des dernières rescapées d'Auschwitz, avec Simone Veil, et l'animateur, comme vous, lui a dit « Mais Marceline, avec tout ce qui s'est passé, vous n'avez jamais eu peur ?» Et elle a répondu « Non, j'ai jamais eu peur. C'est peut-être ce qui m'a sauvé. »
Oui, vous n'avez jamais eu peur, vous ?
Pour moi, je ne devais pas mourir. Tant que je n'étais pas passé à la télé, j'ai fait 40 degrés à l'ombre de la Troie, j'ai fait Sacrée Soirée, j'ai fait Fabrice,
ouais, ouais.
J'ai fait La Classe,
ouais.
Et puis après, un coup de magie, il n'y avait rien. Hein. C'était couvre-feu dehors, tout le monde était confiné, et moi j'étais parti dans un sauna homosexuel, mon père m'avait tabassé, il avait voulu m'étrangler avec la corde du mouton, j'étais tellement choqué, j'étais griffé partout, je suis parti dormir dans un sauna homosexuel.
Ouais.
Et je me suis fait contaminer volontairement. C'était un suicide annoncé.
Votre père...
Je n'avais pas mangé depuis 3 jours. Il y a un monsieur qui m'a dit, viens dans la cabine. Je ne savais pas ce que c'était.
Ouais.
Il m'a dit, viens dans la cabine, tu veux une cigarette? Je dis, mais je veux même autre chose. Parce que moi, j'étais dans des addictions avant.
Ouais.
Puis maintenant, je suis très bien. J'étais soigné à Marmottan.
Votre père, Najim, il vous battait pourquoi exactement, en fait?
Il me battait... Alors, quand j'avais mon salon de coiffure, il m'arrachait tous les cheveux. Une fois, il m'arrachait tous mes cheveux. Il m'a emmené en Algérie. Il m'a arraché tous mes cheveux avec du goudron et des feuilles. Mmh. Il m'a pendu à côté du mouton, avec la corde, il m'a dit, t'es pas un homme, t'es une femme. Il m'a craché sur le visage. Il m'a dit, visage de femme, tes frères, ils vont te tuer. On va te tuer, je t'emmène en Algérie. J'avais pas le droit de manger le soir, j'avais pas le droit de goûter. Le jour où il m'a vu à la télé, je vais faire assez drôle de dame avec Arlette Tabar, avenue Montaigne, rue Pierre Charron. Il me voit à la télé, je rentre, il me casse le nez. Je rentre avec ma djellaba parce que mon producteur m'avait acheté une djellaba, des babouches. Ouais. On avait fait un look un peu le moins cher à Barbès-Rochechouart. Mm-hmm. Et il m'a tabassé. J'étais en sang et j'appelle mon producteur. Il me dit, alors ils sont contents tes parents? Il dit, mais Robert, je suis en sang. Il m'a dit, mais la télé, elle passe en différé dans deux jours, ils ne sont pas contents.
Bon, mais c'est...
Ça a été très dur.
Ouais. Bon, on continuera cette discussion demain, si vous le voulez bien, Nadjim, parce qu'on n'est pas allé au bout de
ce
où on devait aller. Mais vous êtes tout excusé, mon cher.
C'est juste, vous m'avez fait du bien.
C'est juste que je vous ai pris un petit peu en retard et on rééchange demain. Vous voulez bien?
Voilà.
Hein?
Donc, oui, pour dire aux gens qu'il ne faut pas qu'ils aient peur, parce que moi je pensais que j'allais mourir. Je préparais la caisse noire pour me faire enterrer en France ou en Algérie.
Nadjim,
et on est encore là.
Comme c'est la fin, et vous êtes encore là, et vous leur redirez demain soir, parce qu'on évoquera un peu plus précisément votre fureur de vivre, justement. Je vous dis bonsoir et je vous dis à demain, Nadjim.
Oui, merci.
Au revoir.
Merci, Olivier. Merci, vous
êtes
adorable. Merci à vous tous.
Merci. Chers amis, c'est la fin de cette libre antenne. On retrouvera Nadjim demain, on prendra un moment pour partager avec lui. C'était génial encore ce soir de passer ce moment-là avec vous. À demain 22h30. Salut.